Alors, nous allons faire plusieurs lectures. La première dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 5. Vous connaissez tous cette parole du Seigneur Jésus qui nous met tous, bien sûr, à niveau. Jean, chapitre 15, verset 5. Le fameux texte où il nous compare à des sarments qui doivent être continuellement greffés au cep pour pouvoir recevoir la sève nécessaire. Jean, chapitre 15, verset 5, c'est ce verset qui nous intéresse, les derniers mots de ce verset. Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, l'apôtre Paul est en prison. Il n'arrête pas dans cette épître d'exhorter les chrétiens à se réjouir. Si vous cherchez le mot qui revient le plus souvent dans cette épître, c'est le mot « joie » ou « réjouissez-vous ». Il est en prison, mais il est dans la pensée de Dieu, il est dans la volonté de Dieu. Il vit très bien cette épreuve et il exprime ce qu'il vit. Et au travers du verset 13 du chapitre 4, nous voyons l'inverse ou la solution à ce que nous venons de lire dans Jean au chapitre 15. Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose que nous pourrions vivre? Vous vous rendez compte? « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, un autre texte dans l'épître de Jude, juste avant l'Apocalypse, il y a cette courte épître, un seul chapitre, mais qui enseigne beaucoup de choses. Alors, on va lire deux versets dans ce chapitre. C'est un petit peu ce que je ressens moi aussi aujourd'hui. Donc, Jude, qui était un des frères du Seigneur Jésus, a écrit ceci au verset 3. Jude, verset 3. « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, regardez bien. Je me suis senti obligé de vous exhorter, de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. » Donc, alors que Dieu le poussait à écrire, donc vous avez vu, il s'est senti obligé de les exhorter à combattre pour la foi. Au verset 20, il y a une autre indication. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Est-ce que vous aimez être édifié? C'est ce que je vais m'appliquer à faire maintenant. Est-ce que vous aimez l'édification? Bon. Est-ce que vous aimez vous édifier vous-même? Oui? Si un jour il n'y avait pas de pasteur, il ne faudrait pas le faire? Hein? Édifiez les gens qui ne peuvent pas venir à l'église, il faut bien qu'ils s'édifient même. Édifiez-vous-même sur votre très sainte foi. Je me suis senti obligé de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Si vous étiez là dimanche dernier, vous vous rappellerez que j'ai développé trois points. Le premier, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le deuxième, c'était que la maison du Seigneur devienne une maison de prière. Mais nous, individuellement, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, dont notre vie doit être une maison de prière. Et le troisième point, c'est que nous devons mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Ce sont des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Tout cela par, bien sûr, le baptême du Saint-Esprit. Tout cela dans une vie de prière, une atmosphère de prière. Il y a deux façons de travailler dans l'œuvre de Dieu. Deux. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a deux en vérité que l'on connaît. Il y a deux façons de vrai de faire. Soit on le fait par la chair, de manière humaine, charnelle, religieuse, par nos propres forces, la routine, je fais les choses parce qu'il faut les faire, voilà, on les fait, mais ça sert à rien, fait ça, si, à tranquilliser notre conscience. Vous voyez, on peut faire plein de choses par ses propres forces. Est-ce que vous le savez? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais attention, d'une manière humaine, on peut faire plein de choses aussi, il ne faut pas rêver, on peut faire plein de choses d'une manière même religieuse, vous voyez? Mais est-ce que ce sont les œuvres de Dieu? Voyez, on peut faire plein de choses pour Dieu. Moi, je suis sûr que quand des gens vont arriver au ciel, Dieu va dire à certaines personnes, mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais pasteur, mais qui t'a demandé? Vous me croyez? Il y a des gens, Dieu va leur dire, mais pourquoi tu as fait ça? Je ne te l'ai jamais demandé. Ah bon? Est-ce que vous me croyez? On peut faire plein de choses que Dieu ne nous a pas demandé. C'est pour ça que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit pour ne faire que ce que Dieu veut que nous fassions pour que ça soit un plaisir et non pas une corvée. Donc, on combat soit par ses propres forces, par la chair, avec notre intelligence, quoique ces choses-là sont utiles lorsqu'on fait même l'œuvre de Dieu. Mais si on combat de cette façon-là, ça sera un mauvais combat. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens interprètent très mal les exhortations au combat spirituel. Beaucoup de chrétiens sont agacés dès qu'on leur parle de prier, dès qu'on leur parle de combattre pour les saints, pour la foi, de s'édifier, etc. Certains le vivent mal parce qu'ils ont pris l'habitude de faire les choses d'une manière charnelle. Ça fait que ça devient une corvée, c'est inutile. Et la Bible n'arrête pas de répéter tout le long. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Le secours de l'homme n'est que vanité. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, etc., etc. Et ils ne recherchent pas l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne sois point sage à tes propres yeux. La Bible est remplie de textes qui, de plusieurs façons, nous demandent surtout de ne pas combattre contre la chair et le sang, de combattre par nos propres forces. Il y a deux combats. Il y a le mauvais combat et il y a bien sûr le bon combat de la foi. D'accord. Alors, je dois nous poser cette question. Lequel menons-nous? Lequel combat menez-vous? C'est important que vous puissiez dire, non pas quand vous passerez devant Dieu, vous aimeriez à la fin de votre vie, quand vous passerez devant Dieu, que Dieu vous dise, au fait, tu ne sais pas au courant, mais tu combattais le mauvais combat. Non, mais ça serait quand même triste que vous l'appreniez quand vous passerez devant Dieu. Oui ou non? Mais ça arrivera. Laissez-moi vous dire que quand vous connaissez la Bible, vous savez qu'il y a des gens qui apprendront que, quand ils passeront devant Dieu, que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas ce que Dieu leur avait demandé. Il avait fait parce qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il faut faire quelque chose qu'il faut faire n'importe quoi. Voyez? Alors, quel combat menez-vous? Un combat avec vos ressources, vos propres forces? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de combattre contre la chair et le sang? Cette semaine, j'ai eu une visite d'une jeune fille qui est épuisée, mais épuisée. Et à force, bien sûr, au bout d'une heure et quart, je me suis rendu compte. J'ai dit, mais vous lisez votre Bible, vous priez? Non, je ne lis plus, je ne prie plus, j'en ai marre. Et j'ai dit, mais c'est normal. Et je lui ai posé quelques questions, je commence à avoir l'habitude. Et cette fille, elle se débat contre les collègues, contre le patron. Elle se débat et ça devient fatigant. Et c'est ça la volonté de Dieu? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que le combat de Dieu, c'est un bon combat. Le bon combat de la foi. Heureux l'homme qui combat avec les armes de Dieu, par la vertu de Dieu, par la grâce de Dieu. Je reprends des expressions bibliques liées au combat. L'homme, heureux l'homme qui vit dans le repos de la foi. Alors voulons-nous vivre ce que nous venons de lire, pouvoir graduellement, en faisant des progrès, pouvoir dire, ouais, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que c'est une expérience que l'on peut vivre? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que l'apôtre Paul l'a écrit pour se gargariser? Il dit, oui, vous savez, je suis en prison, mais voilà. Est-ce que c'était pour faire le malin que Paul a écrit ça? Est-ce qu'il n'a pas dit, soyez mes imitateurs, soyez mes modèles? Et parce que nous aussi, nous pouvons arriver à ce stade pour la gloire de Dieu, pour notre bonheur personnel, parce que Dieu tient à ce que nous soyons heureux également, que nous puissions dire, mais moi aussi, par la grâce de Dieu, par Jésus, je peux faire ce qu'il me demande et il me fortifie, donc je peux continuer à le faire. Alors, il faut faire le point. La rentrée scolaire commence, nous avons peut-être des projets. Vous voyez, je parlais de certaines choses, de certains besoins dans l'église. Quand mon épouse m'a dit qu'il y avait 29 ados, je me suis dit, il faut que les chrétiens prient pour ces 29 ados. Vous aimeriez pas qu'il y ait 27 baptêmes le mois de juin? 27 ados, est-ce que c'est possible? 27 ados qui se font baptiser. C'est Madame Jeannezin qui ne va pas être contente pendant... quand ça va passer derrière, mais tant pis. Mais est-ce que ça serait possible qu'il y ait 29 ados qui se convertissent? Qui se convertissent, pas qui prennent le baptême, mais vraiment qui se convertissent. Voilà, alors il faut que vous puissiez vous répondre. Alors la vie chrétienne, pour vous, est-ce que c'est un fardeau, une corvée? Est-ce que servir Dieu, c'est fatigant? Si c'est un fardeau, si servir Dieu, c'est une corvée, c'est obligé. C'est que vous vous trompez de combat. Vous entendez? Alors ne partez pas vite dans le combat spirituel en me disant « Oui, mais il y a des luttes. » Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats. Mais on peut vivre tout ça dans le repos de la foi. Croyez-moi. Si vous vous débattez, vous savez, je lisais hier les Lamentations de Jérémie, et quand Dieu dit « Mais vous avez fait la joie de l'ennemi. » Jérémie, Lamentations 2:17. « Vous avez fait la joie de l'ennemi. » Vous savez, dans certains endroits, on croit qu'on combat le bon combat de la foi, et moi je peux vous dire que c'est le combat de la chair, et que ça fait la joie de l'ennemi. Peut-être que je vous choque ça m'ennuierait de vous choquer, mais en fait c'est la vérité. Je peux vous dire que dans bien des églises, on fait la joie de l'ennemi. On croit qu'il y a une espèce d'exaltation, ce n'est que de l'excitation, et ça le diable, ça lui plaît, parce que tout est charnel. Quand l'œuvre de Dieu se fait, il n'y a pas besoin d'animation. Quand il y a l'onction, vous savez, il n'y a même pas besoin de joie. Parce que je peux vous dire que quand il y a l'onction, il y a tout dedans. Vous ne le croyez pas? Alors si vous vous débattez, il faut que je vous aide. Je ne suis pas là pour vous faire... Ce n'est pas un sermon. C'est une exhortation sérieuse, comme Jude qui disait, mais je me suis senti obligé à vous exhorter afin que vous combattiez le bon combat. Être chrétien, ça doit être une bénédiction. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors si vous vous débattez, si c'est une corvée, si aller à la prière, c'est comme si vous alliez chez le dentiste, c'est un truc qui ne va pas. Il faut qu'aller à la maison du Seigneur soit un sujet de joie. Comme je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors il est temps d'apprendre justement que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir expérimenter dans les mois qui suivent cette bénédiction. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bon, maintenant, il faut entrer dans le sujet. La clé, bien sûr, c'est comment être fortifié. C'est ça le problème. Puisque c'est ça, je puis tout. Par celui, bon, on sait que c'est par Jésus, ça on l'a compris, sans lui on ne peut rien faire, qui me fortifie. Mais voilà, comment être fortifié? Je lisais hier le Deutéronome, quand Dieu dit à Moïse, on peut le lire, remarquez, on n'a pas fait beaucoup de lecture, Deutéronome chapitre 3, regardez comment c'est beau. Après, il faut voir tous les textes qui ont été adressés à Josué, mais ça vous pouvez le faire, vous. Deutéronome 3, je ne vais pas tout vous dire, quand même. Hein. Deutéronome 3, verset 28, Dieu dit, Moïse avait fatigué le Seigneur parce qu'il voulait aller dans le pays de Canaan et Dieu le lui a refusé, vous savez à cause de quoi, hein. Et Dieu à un moment donné, écoute, arrête maintenant, j'en ai assez, ne me parle plus de cette affaire. Alors il lui dit, regardez, verset 28, Deutéronome 3, verset 28, « Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le. » Amen. À vous lire la suite et vous verrez comment le Seigneur s'y prend. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le. Alors on va commencer par quelque chose de simple. Comment vous aimez les ordres de Dieu? Est-ce que vous aimez qu'on vous donne des ordres? Oui, vous avez raison. Est-ce que vous aimez les ordres? Les ordres de Dieu, les ordres justes. Tout, si vous avez une concordance, allez taper le mot ordonnance ou ordre. Et vous verrez, lisez le psaume 119, ça va être plus simple. Lisez le psaume 119 et vous verrez tout ce que David, le roi, dit sur les ordonnances. Quand il dit par exemple, je trouve juste toutes tes ordonnances. Est-ce que tous les ordres de Dieu sont justes? Nous, on a donné des ordres injustes. À nos enfants, franchement, on n'a pas toujours été justes. Qui a donné toujours des ordres justes à ses enfants? Taisez-vous! C'était pour notre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Taisez-vous, les enfants. C'était très intéressant pour eux. Enfin, ce n'est pas pour nous. On n'a pas toujours donné des ordres justes. En tant que responsable, si vous êtes patron, vous n'avez pas toujours donné des ordres justes. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez une responsabilité dans un domaine ou dans un autre, on n'a pas toujours donné des ordres justes. Mais c'est évident, mais ça, on le comprend. Mais tous les ordres de Dieu sont justes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lisez le psaume 119 et regardez, parce qu'il utilise les mots ordre, statut, ordonnance, précepte, commandement, etc. Tout ça, ça vous permet de comprendre pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Lisez-le. Il disait, mais tes ordres ont réjoui mon cœur. Il savait que les ordres de Dieu, ce ne sont que des bénédictions. Et quand vous voyez les chrétiens qui disent, oui, mais Dieu dit ça, moi je ne comprends pas. Parce qu'on n'a pas compris qu'on ne va pas bien. Parce que quand Dieu donne un ordre, c'est une bénédiction. Vous le croyez, hein ? Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Alors ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas la méthode Coué. Des chrétiens l'utilisent. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Ça va marcher, ça va marcher. Quelqu'un va peut-être me dire, oui, mais Néhémie, le prophète, il a dit, fortifie-moi, oh Dieu, maintenant, fortifie-moi. Mais quand vous voyez tout ce qu'il faisait à côté, il pouvait faire cette prière. Vous comprenez, je veux dire. Lisez le premier chapitre de Néhémie et vous allez voir la piété que de cet homme, il pouvait ajouter à la fin de sa prière, maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Mais est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'on va dire fortifie-moi, 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 Seigneur, j'ai la foi, fortifie-moi, que Dieu va vous fortifier. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont la foi, c'est pas la foi. Cette façon de dire Seigneur, fais ci, fais ça. Non, parce que Dieu nous demande de vivre certaines choses pour qu'elles se fassent. Imaginez que vous soyez tout sale. Vous avez travaillé toute la journée dans la boue, dans la poussière, vous avez transpiré, vous êtes épuisé, vous êtes tout sale. Et que vous disiez au Seigneur, Seigneur, tu vois, tu sais la foi que j'ai, lave-moi sans que je passe par la douche. Non mais, qu'est-ce que vous diriez? Oui, hein, un marchand. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un, moi vous savez, moi j'ai la foi, je crois que Dieu peut me laver sans que je prenne un bain. Puis, attends, bon. Il y a un verset que j'aime, que celui qui sort l'hiver sans son manteau, est un insensé. Vous voyez, quelqu'un dit, moi j'ai la foi, hein. Moi l'hiver je sors, j'ai pas besoin de me couvrir. C'est ridicule. Vous voyez, c'est stupide. Et il y a des chrétiens, ils se comportent comme ça dans bien des domaines. Si vous êtes sale, épuisé, plein de transpiration, il faut vous laver. Et après le bain, et après la douche, vous pourrez dire, merci Seigneur, ça m'a fait du bien et ça m'a rafraîchi. Oui ou non? C'est exactement pareil pour le fait d'être fortifié. Alors on va voir ce que Dieu a dit à Moïse, à Josué. Vous avez certainement lu Josué, chapitre 1er, Moïse est mort, donc il faut que quelqu'un le remplace. Dieu a désigné Josué et Dieu va lui parler. Alors vous savez comment Dieu s'y prend, hein? Vous le savez à force de lire la Bible, vous le savez. Il lui rappelle les promesses. C'est bien qu'on nous rappelle les promesses du Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein? Dieu va lui dire... Il va lui dire ce qu'il nous dit à nous dans l'Éphésiens. Si vous voulez comprendre Josué, lisez les Éphésiens. Josué chapitre 1er, voyez, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez les promesses. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est bien? Il vous faut me répondre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est écrit dans les Éphésiens aussi que Dieu peut nous donner tous les lieux? Oui. Tout lieu, verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hessiens jusqu'à la grande mer et le soleil couchant. Nul, ah si c'est bien, nul ne tiendra devant toi. C'est bien? Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est pas une promesse ça? Bon, ça, c'est bien, hein? ça devait faire du bien. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu fait des promesses. Est-ce que c'était bien ces promesses? Est-ce qu'il en avait besoin? Avec ce qu'il allait faire, oui. Avec ce qu'il allait vivre, moi je pense que c'était rassurant d'entendre ça. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il rappelle les promesses et maintenant il va lui dire ce qu'il faut qu'il fasse pour que ces promesses puissent se réaliser. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. Rappelez-vous le verset clé. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Je répète. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est une question. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La dernière phrase du verset 18, hein, ce qu'on appelle 18b. C'est la deuxième phrase. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Voilà ce que Dieu fait lorsque il va utiliser quelqu'un. Il lui rappelle les promesses, parce que Dieu sait que nous avons besoin de réentendre les promesses. Ça, c'est quand même important. C'est pas faites ci, faites là. Non. Voilà pourquoi. Il y a un but, il y a un objectif, il y a une vision. L'œuvre de Dieu, c'est pas tu fais parce qu'il faut faire comme ça, comme le frère aîné dans la parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez? Et ça fait des années que je travaille, et t'as jamais tué un chevreau pour moi, et l'autre là qui a dépensé son bien, avec les prostituées, et si, il est là. Voyez? Comment il servait? Il n'a pas compris que ce qu'il faisait, c'était pour lui. Quand il faisait prospérer le cheptel, mais c'était pour qui l'héritage, un jour? Vous voyez, quand on a un mauvais état d'esprit, on fait les choses pour les faire. Il faut obéir au patron. C'est pas comme ça qu'on avance avec Dieu. Cet état d'esprit n'est pas bon. Dieu nous rappelle les promesses. Il y a un but, il y a un objectif. Il y a la gloire, l'éternité, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Moi, je trouve quand même que Dieu nous a donné un super projet. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il rappelle les promesses. Et puis, voilà, Josué, il va pas lui donner tout un tas de trucs. Il lui dit... Quatre fois, Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Se fortifier, définition, prendre plus de force, plus d'assurance. Celui qui m'écoute, alors maintenant on va voir ce qu'il faut faire pour être fortifié. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Et un des problèmes qui fait que les croyants ne sont pas fortifiés, c'est qu'ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils sont d'accord, c'est biblique. Alors ils s'imaginent que parce qu'ils entendent quelque chose qui est biblique, alors certains même s'autorisent à se comparer aux chrétiens de Béret qui vérifiaient si tout ce que Paul disait dans les Écritures était exact. Quelle grâce! Mais à quoi ça sert de vérifier si ce que l'on prêche est exact si on ne le vit pas? C'est bien joli de se gargariser, de dire, mais moi, vous savez, quand j'écoute le pasteur, je vérifie si c'est biblique. Vous avez raison. Mais l'assurance, être fortifié, ne dépend pas de ça. Ça dépend du fait que je vais écouter. Quand Dieu dit quelque chose, il l'a dit. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Ah oui, mais il l'a dit à Josué, il ne me l'a pas dit à moi. Il n'a pas dit à nous dans le Nouveau Testament, je serai avec vous, et que je sache s'il n'a pas changé d'avis, il s'appelle toujours Emmanuel. Ça signifie quoi? Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est avec nous? Voyez? Et le problème, c'est que les gens n'ont pas d'assurance parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont d'accord, ils disent c'est vrai, c'est la Bible. Ils ne vont pas avoir le culot, excusez-moi, de dire, ah non, je ne suis pas d'accord. Mais en vérité, c'est comme s'ils n'étaient pas d'accord. Vous me suivez? Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Quelqu'un qui est fortifié, c'est quelqu'un qui prend de l'assurance. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Quand Dieu dit dans Hébreux 13, 5, je serai avec toi, je t'abandonnerai pas, je te garderai, je te protégerai, etc. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Oui, ce que Dieu a dit à Josué, quand il est venu sur la terre, il l'a dit à tous les hommes, en s'appelant Emmanuel. J'espère qu'on a compris ce que ça voulait dire. Alors des fois, on le chante d'Emmanuel. Alors moi, je vois des gens des fois, même ils ont les larmes, vous voyez. Moi, je le vois, ça m'arrive. Et puis quand je discute à la fin, et que je leur dis, mais vous savez, on a chanté Emmanuel. Oui, mais enfin, vous savez. Vous voyez. Ils n'écoutent pas. C'est émotionnel. Quand on chante Emmanuel, on se rappelle que nous avons un Dieu qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'il est dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Que celui qui lit fasse attention. C'est écrit. Et les gens, ils lisent parce qu'il faut lire. Non, c'est écrit. C'est important. Fortifie-toi seulement. Seulement, ça veut dire, il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est ça que ça veut dire. Regardez dans le dictionnaire. Quand il est dit, voilà, celui qui se confie en Dieu seul. Seul, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Qu'il n'y a besoin de rien d'autre. Vous avez vu, c'est écrit. On l'a lu. Fortifie-toi seulement. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Fortifie-toi seulement. Ça veut dire, t'as pas besoin d'autre chose. Paul le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, être fortifié passe incontournablement par le fait de bien écouter ce que Dieu a à nous dire. Si Dieu lui a dit quatre fois, c'est parce qu'il avait peut-être besoin de l'entendre quatre fois. Est-ce qu'on a besoin de réentendre plusieurs fois de suite? Ben oui. Mais bien sûr, heureusement que Dieu est patient. Je me souviens de ce chrétien qui un jour me disait, d'ailleurs cet homme a fini par mettre fin à ses jours, cet homme me disait, moi je suis comme Dieu, je suis intègre, quand je dis une chose, je ne le dis pas deux fois. Mais j'ai écouté, heureusement que Dieu n'est pas comme vous. Vous rendez compte? Mais vous voyez comment cet homme, il pensait que l'entêtement, c'était de l'intégrité ou de la droiture. Vous voyez comment? Bon, ça, c'est autre chose. Mais voyez, mes frères et sœurs, heureusement que le Seigneur nous répète les choses. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Seulement. Tu n'as besoin que de ça. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Alors, il faut écouter. C'est pour ça que c'est bien que l'on prie avant les réunions pour que notre cœur soit disposé. C'est important qu'il y ait une atmosphère spirituelle. On parle des fois d'ambiance. Moi, j'aime pas trop le mot parce que ça fait penser au truc du monde. Mais, voyez, une atmosphère spirituelle qui est amenée par la prière, par le recueillement, ça prédispose. Voyez, fortifie-toi seulement, Josué, si tu savais tout ce que tu vas devoir faire, vous savez la suite. Voilà, je te demande une chose, Josué. Fortifie-toi, donc tu écouteras, écoute-moi. Et agis fidèlement, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il n'a pas dit Moïse, bon, Moïse, c'est le vieux, il était vieux, maintenant moi je vais faire à ma façon. Pourquoi dans beaucoup d'églises ça n'a pas marché? Parce qu'on a rejeté ce qui avait été fait. Et je crois qu'on respecte le travail qui était fait. Moïse est mort, c'est vrai, il est mort. Mais tu respecteras ce qu'il a enseigné. Et je crois que dans le royaume de Dieu, on respecte ce que les anciens nous ont enseigné, qui vient de Dieu. On ne cherche pas des méthodes, il n'y a pas de méthode. C'est ridicule de chercher des méthodes. J'entends, moi, il faut se moderniser, le monde se modernise. Vous avez vu, quand ils sortent des nouveaux t-shirts, ils vont voir des pros de ci et de là. Il faut faire pareil. Il faut voir. Le seul professionnel moi, que je connaisse, c'est le Saint-Esprit. Voilà, qui est capable de diriger l'Église. Si on a besoin de quelqu'un, c'est du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Écoutez. Quand vous lisez un verset, il faut l'écouter. Agir fidèlement et ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Un homme fortifié, c'est quelqu'un qui agit fidèlement. Dieu agit quand vous agissez fidèlement. Vous avez vu, hein? Fortifie-toi seulement en agissant fidèlement. D'ailleurs, c'est écrit, confie-toi en Dieu et il agira. C'est écrit. Si vous agissez fidèlement, Dieu agira. C'est comme ça, c'est une loi. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais dites-le jour et nuit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Est-ce que ça vous ennuie ce verset? Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, mais c'est pas possible. Mais vous rêvez, jour et nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quand il dit prier sans cesse. Il faut que je sois 24 heures à genoux. Mais non, c'est un état d'esprit. Mais quand on aime, on pense à la personne. Oui ou non? Vous pensez à Dieu quand? Le dimanche matin de 10h à 11h30? Vous voulez réussir dans toutes vos entreprises? C'est pas du chantage, c'est un principe. Josué, voilà. Moi, je te donne un ordre. Fortifie-toi et bon courage. Tu réussiras. Vous avez lu le psaume premier, c'est le même principe. Heureux l'homme qui ne s'appuie pas sur le conseil des méchants, qui ne marche pas selon le conseil des mécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, etc. Mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite. Heureux l'homme qui médite. Vous voyez, il y a des gens qui lisent la Bible, ils sont peureux. Je ne comprends pas, je lis. C'est ce que je vous disais, c'est un mauvais combat. Ils lisent pour lire. Ils ne lisent pas pour connaître le cœur de Dieu. Ils lisent parce qu'on leur dit, lisez la Bible. Alors ça devient une corvée, un devoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne lisent plus la Bible. Je ne sais pas. Moi, j'aime lire la parole de Dieu. Je sais que tout ce qui est écrit, ça sort de la bouche de Dieu. Ça ne sort pas du président de tel pays. Ça sort de la bouche du créateur de l'univers. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de haut placé. Vous ne trouvez pas? C'est lui qui l'a écrit pour nous faire du bien, en agissant fidèlement. Médite. Est-ce que vous aimez méditer? Méditer, ça veut dire soumettre à des réflexions. Ça vient d'un mot latin qui signifie s'exercer, réfléchir, approfondir, penser. C'est bien cette définition. Penser longuement sur un sujet. Ça, c'est peut-être la meilleure définition. Je réfléchis, j'y pense. Je lis un verset. Vous savez, moi, pendant des années, vous le savez, si vous étiez là au début quand je suis arrivé, Parce que justement, un jour à genoux, je me débattais, je luttais contre la chair et le sang, j'étais énervé, fatigué. Je commençais à remettre en question l'exercice de mon ministère. Et je me souviens ce matin-là, quand j'étais à genoux, et que j'ai entendu... C'est rare, ça fait 28 ans que je suis pasteur, ça fait 31 ans que je suis chrétien. Exactement, je peux dire que Dieu, j'ai entendu la voix du Seigneur 7 ou 8 fois. Mais je me souviens de ce matin-là, quand j'étais à genoux, que j'envisageais d'arrêter le ministère... Et que le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Je savais qu'il fallait passer par là. Et je me suis mis à méditer ça jour et nuit. Jour et nuit, je ne pensais qu'à ça. Ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Ne t'inquiète de rien. Et ce verset, il est gravé. Ça fait que quand je m'inquiète, ça dure entre 20 secondes et 3 minutes. 3 minutes, moi je trouve que c'est inquiétant. Mais non, je ne m'inquiète pas. C'est un commandement du Seigneur. Fortifie-toi en agissant fidèlement. Médite jour et nuit. Par exemple, pendant des mois, là il y a des mois, quelques mois passés, tous les matins je méditais le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous connaissez le psaume 103. Il nous est demandé de... Ça fait des mois maintenant, quand je me lève le matin, dès que je me lève, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà. Et je bénis Dieu parce que je peux marcher, parce que je peux aller faire pipi. Je suis sérieux. Très sérieux. Parce que je peux aller me laver, que je peux faire chauffer un café, que j'ai de l'eau froide dans le frigo, que j'ai un micro-ondes. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Je l'ai médité jour et nuit. C'est pour ça que Dieu dit mes lois, l'alliance. Voici l'alliance que je ferai avec vous. Je mettrai mes lois dans votre cœur, je les graverai dans votre esprit. Un homme qui médite jour et nuit, les promesses de Dieu, elles sont gravées. C'est pas écrit à la craie. Vous savez comme les enfants des fois qui dans les cours des écoles, à la craie, ils écrivent, le lendemain il a plu, elle a disparu, la marelle, elle a disparu. Mais il y a des chrétiens, c'est comme ça. C'est écrit à la craie. Le dimanche, le pasteur écrit. Mais vous pouvez méditer. La prédication de ce matin, elle sera un jour gravée dans votre cœur. Et Dieu et le Saint-Esprit vous rappellera que si vous fortifiez, si vous agissez fidèlement, si vous écoutez à un moment donné, c'est comme ça, c'est obligé. C'est gravé. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès. Et l'esprit de l'homme se fortifie comme ça. Quand vous méditez un texte, il se grave. Ça vaut la peine. Imposez-vous-le. Quand il est dit, mais amenez vos pensées captives à l'obéissance. Le matin, moi, je me l'impose. Je me l'impose. Voyez, il est dit, fortifie-toi, prends courage. Mais je vous le dis parce que quand même, c'est important. J'aime pas parler de moi parce que je trouve que c'est pas la prédication. Mais quand même, il y a des choses qu'on les vit. Quand Dieu dit, prends courage, le matin, quand je lis, je dis, eh bien, Seigneur, je prends le café du micro-ondes. Je le prends. Vous êtes d'accord? J'utilise ma main. Il ne va pas venir tout seul sur mon bureau. Vous voyez, là aussi, Seigneur, tu es puissant. Que le micro, que le café vienne. Est-ce que Dieu pourrait dépêcher un ange pour m'amener? Bon, je sais que des anges, il y en a, des millions et des millions, mais je pense que Dieu a autre chose à faire que ça. Franchement, je crois que si Dieu nous a donné des mains, c'est pour se servir. Mais voyez, c'est pour vous expliquer le mysticisme de certains chrétiens. Dieu nous a donné une main pour prendre la boisson que l'on veut boire. Dieu nous a donné la foi pour prendre la vertu qu'il nous propose. Et quand Dieu dit « prends courage », par un acte de foi, « Seigneur, donne-moi du courage parce que le mien à moi, il ne vaut pas grand-chose. Mais le tien, il est de très, très bonne qualité. Fortifie-toi et prends courage. » Alors on pourrait prendre tous les textes de la Bible, c'est ceux qu'on fera cet après-midi parce qu'on n'a pas le temps de le faire ce matin, qui expliquent encore comment être fortifié. Par exemple, j'en donne un. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Quand je ne dis pas quand vous priez, quand vous vous confiez. L'autre jour, il y a un frère qui vient me voir, il me dit « Monsieur Hugo, moi, mon psaume préféré, c'est le psaume 11. » Ah, j'ai dit « Écoutez, je l'ai médité tous les jours cet été, juillet, août, je l'ai lu tous les matins. » Et qu'est-ce qu'il y a dans ce psaume? Ah, il me dit, il faut que je vous le lise. Alors, justement, il a pris ce verset que j'ai parlé d'ailleurs plusieurs fois, vous devez vous en souvenir en juin. Ceux qui connaissent ton nom. Après? Ah! ceux qui connaissent ton nom, psaume 11, verset 9. Alors Joël, vous êtes renvoyé de l'église. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas faire autrement que de se confier en lui. Vous comprenez, je veux dire? On va rechanter ce beau cantique qu'on a appris ce matin, ton nom. Mais voyez, ceux qui quand vous connaissez quelqu'un, je vous donne un exemple, j'y pensais en préparant la prédication. Une année, un dimanche soir, on avait vu des fuites, il y a 3 ou 4 ans de ça, on avait vu des fuites dans les pièces à côté. Alors, les frères de Dieu, bien sûr, demain, il faut venir changer les tuiles. Bon. Le matin, il pleuvait. Mais je savais, ils avaient dit qu'ils viendraient changer les tuiles, et je suis venu esprit. Je suis venu, et sous la flotte, qui c'est qu'il y avait sur le toit de l'église? Les frères de Dieu, en train de réparer les tuiles. Mais vous ne les changerez pas. Quand vous connaissez quelqu'un, vous le savez. On les connaît. Mais je le savais. Je suis venu, il pleuvait, ils étaient sur le toit. Je dis, ne glissez pas. On sait ce qu'on a à faire. Mais quand on connaît quelqu'un, on sait comment il va faire. Plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous connaissez Dieu, vous savez comment il est. Ceux qui connaissent ton nom, c'est pas, je mets le nom de Jésus, je le connais. Et voilà, je reviens sur le mysticisme de certains chrétiens et qui utilisent avec beaucoup de force, au nom de Jésus. Mais quand je discute avec eux, tout ça, c'est la méthode Coué. Vous me suivez? Au nom de Jésus. Ne riez pas. Mais quand moi je discute avec ces gens, je me rends compte qu'ils utilisent une formule, comme quand on était catholique, on récitait le Notre Père. Pareil, c'est le Notre Père que j'appelle pentecôtiste. Quand vous connaissez Dieu, quand vous connaissez son nom et ce qu'il représente, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous confier en lui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en lui. D'ailleurs, il le dit dans Ésaïe, mais tu ne la sais pas, mais tu ne l'as pas appris, mais tu ne le sais pas encore. Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et voilà, prier c'est une chose, se confier c'en est une autre. Alors si vous conciliez les deux, c'est clair que c'est le top niveau. C'est certainement ça, se fortifier et prendre courage. Mais mes frères et sœurs, on verra, parce que là, l'heure avance. Mais franchement, que de choses. Lisez-le, prenez une concordance, prenez le verbe fortifier et étudiez-le, méditez-le vous-même. On l'a lu, édifiez-vous vous-même. Vous avez besoin du pasteur, mais vous pouvez vous édifier vous-même. On a tous la même Bible quand même. Et vous pouvez vous édifier vous-même. Et de cette façon-là, on combattra le bon combat, on gagnera des âmes, on ne sera pas là en utilisant le nom de Jésus, bêtement, écoutez-moi, ridiculement. Il faut dire les choses comme elles sont. Comprenez, le nom de Jésus, ça rappelle toute son œuvre. Quand vous dites Jésus, ça vous rappelle, vous voyez, une tour aux 80. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Le nom de Jésus, c'est son œuvre, c'est tout ce qu'il représente. Quand Moïse dit, il s'appelle Jéhovah Nissi, quand vous dites le nom de Jésus, voilà, vous dites, il combat pour moi lorsque je me confie en lui. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Monte sur la montagne, élève les bras, tu verras. Ah ben oui, il l'a vu. Que quand on écoute Dieu, il combat pour nous. Le nom de Jésus, ça représente tous ses attributs. Ce n'est pas une formule magique, dans le nom de Jésus, je répète. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand je vois des gens qui sont tout le temps en train de hurler au nom de Jésus. Ça me fatigue. Ceux qui connaissent le nom du Seigneur sont fortifiés. On verra la suite plus tard. Combien je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions simplement que Dieu nous demande seulement de nous fortifier dans la grâce. Voyez? Est-ce que c'est écrit? Bon, on ne peut pas le voir, il y en a une quinzaine de trucs, on le verra cet après-midi. Fortifie-toi dans la grâce. Il parle à un pasteur, il pourrait dire, écoute, attention, t'es pasteur, t'as intérêt à te tenir à carreau et faire ci et faire ça. Non, mon enfant, parce qu'avant d'être des pasteurs, on est quand même des enfants du Seigneur. On n'est pas des patrons. Avant d'être pasteur, on est un enfant de Dieu comme tout le monde. Et Paul dit à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Alors, vous pouvez revenir, on fera la suite, mais je crois que ça vaut la peine de méditer et d'agir fidèlement Alors en plus, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je termine, parce que quand Jean écrit à Gaius, il dit, écoute, moi je souhaite qu'une chose, je souhaite que tu prospères, à tous égards, qu'on me prospère l'état de ton âme. Ce gars, il prospérait spirituellement. Alors quand on prospère spirituellement, il n'y a pas de danger à ce que quelqu'un prospère matériellement. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est quand les gens prospèrent matériellement et qu'ils ne prospèrent pas spirituellement. Et là, ça peut foirer, excusez-moi le terme. Voyez, mais quand quelqu'un prospère spirituellement, je ne vois pas pourquoi Dieu ne pourrait pas le faire prospérer, puisqu'il va gérer normalement, puisqu'il est dit que la sagesse a l'avantage du succès. Alors ce sont des choses qu'il faut voir, revoir. Je vous rappelle la prédication de dimanche, par le Saint-Esprit, une maison de prière, et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça ne sera pas une corvée. Des fois on m'appelle, monsieur, vous, mais vous n'êtes pas épuisé de servir Dieu? Non. Servir Dieu, ce n'est pas une corvée, c'est un bonheur. En plus, avec vous, c'est vrai que c'est un plaisir. Alors ne vous inquiétez pas, je vous le dis, servir Dieu ici, avec vous, c'est un privilège. C'est un honneur. Si le Seigneur me demande de le servir, je pense qu'il peut m'aider à le servir. Vous êtes d'accord? Tout ce que Dieu vous demandera de faire, il vous aidera à le faire. Même si le plan est grand, comme c'était le cas pour Josué. On va chanter ce cantique. Vous voulez bien? Hein? Et je demanderai à mon frère donc de venir. On va prier.